Thomas Berbora.
Bonsoir, victoire importantissime pour les SR de Lémont. Les footballeurs jurassiens ont pris la mesure de Bavois 3-1 cet après-midi à la Blancherie dans un duel crucial pour le maintien. Il est encore possible de trouver de nouvelles espèces animales en Suisse. Deux poissons ont été découverts par l'université de Berne et la manière de leur donner des noms est assez originale. Un squelette baladeur, ce serait une manière appropriée de décrire les restes de Saint-Germain, premier abbé de Moutier-Grandval. On vous explique pourquoi dans ce journal. Météo, le ciel de demain ressemblera comme deux gouttes d'eau à celui d'aujourd'hui. Les températures seront elles aussi assez semblables. Les SR de Lémont ont gagné le match à ne pas perdre. Ils ont battu Bavois 3-1 cet après-midi à la Blancherie devant 680 spectateurs. Ce duel de Promotion League de football revêtait un intérêt certain dans la lutte pour le maintien. Au classement, les Vaudois sont en effet juste sous la barre. De Lémont étant peu au-dessus, cette victoire offre aux Jurassiens 5 points d'avance sur la zone de relégation. Et sous le soleil, De Lémont a certes maîtrisé son sujet, mais il a été bien aidé par l'équipe adverse, Cyprien Lovi.
Oui Thomas, ce duel a basculé en 2 minutes au terme d'une première demi-heure de jeu stérile. L'attaquant de Bavois, Moboulou, donnait stupidement un coup de coude à un joueur jurassien. Expulsion. Sur sa première action en supériorité numérique, De Lémont a ouvert le score grâce à Romain Baube, bizarrement seul devant le but et servi par un défenseur vaudois. Les Jurassiens ont ensuite doublé la mise au retour des vestiaires sur une action bien menée et conclue par Sofiane Afchour. On pensait alors vivre 40 minutes tranquille, mais non, De Lémont s'est mis au rythme de l'adversaire, n'a pas su tuer le match et s'est fait surprendre en contre à la 67e minute. Le sentiment que l'équipe manque de capacité de gestion et de confiance, ce que ne partage pas Romain Baume.
Non, je ne pense pas qu'on manque de confiance, je ne saurais pas l'expliquer, mais... C'est juste une histoire de peut-être de concentration à la fin. Lever la tête, voir les autres coéquipiers. On sait très bien que nos attaquants sont capables de mettre plein de buts. Ils l'ont aussi montré aujourd'hui. Les occasions, elles sont là. On en met. On gagne le match aussi grâce à ça.
Certes, mais les SRD ont dû attendre la 87e minute pour assurer leur victoire grâce à un but de Süleyman Türkes qui a profité d'une offrande du toujours remuant Altin Çalhanoğlu. Les 3 points précieux sont dans la poche. La course au maintien obligera les Jurassiens à transpirer encore quelques fois.
Merci Cyprien. Au classement de Promotion League, les SR de Lémont restent 14e avec désormais 5 points d'avance sur la barre de relégation. Suite du championnat samedi prochain sur le terrain du FC Bâle pour y affronter la réserve du club rhénan. Et retrouver le reste de l'actualité sportive dans le point sport. Les doudous soignés par centaines à l'hôpital des Nounours. Pas moins de 330 enfants ont accompagné leurs peluches le week-end dernier et ce week-end à l'hôpital du Jura. D'abord à Porrentruy, puis à De Lémont. Objectif, offrir à ces enfants une immersion ludique dans le monde hospitalier avec le prétexte de soins à apporter à leurs Nounours. Plus d'informations sur notre site internet rfj.ch. C'était un dimanche d'élection chez nos voisins neuchâtelois. L'alliance de gauche a cartonné dans la course au Conseil d'État face à une alliance de droite qui a peiné à convaincre. Les socialistes sortants Frédéric Méry et Florence Natter ont été réélus dès le premier tour. Suivent le PLR sortant Laurent Favre, la conseillère aux États vertes Céline Vara et une autre PLR, la sortante Christelle Graff. Le gouvernement pourrait bien basculer à gauche le 13 avril, date du deuxième tour. Et aux législatifs, les poussées du PS et de l'UDC compensent le recul des Verts et de l'UDC. Du PLR, c'est donc le statu quo des rapports de force. De nouvelles espèces de poissons suisses, c'est ce qu'ont découvert la biologiste Barbara Caligari et son équipe de l'université de Berne. Une des deux espèces, Fluvicola, vit dans les ruisseaux et les rivières, dans le Rhin. L'autre, Ommata, réside dans des eaux plus tranquilles. On la retrouve notamment dans les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Les poissons sont du genre Barbatula et pour les nommer, la biologiste et son équipe ont décidé de demander de l'aide à la population. C'est en effet le public qui a pu choisir la deuxième partie du nom scientifique, soit Fluvicola et Ommata. Barbara Caligari nous parle de cette manière de laisser le choix au public.
This is the most fun and enjoy part of the work, one that I most like. I'm very glad that
c'est la partie la plus sympa et agréable du travail, celle que je préfère. Je suis très reconnaissante que la population puisse participer à ce processus. La manière de faire, c'est choisir un nom en relation avec la morphologie du poisson. Comme ça, les gens qui pêchent ou qui étudient ces poissons, ils peuvent les identifier et les reconnaître en les voyant. Ils savent que c'est, par exemple, un yeux large ou une tête large ou quelque chose qui rappelle le nom du poisson. Normalement, on attribue un nom grâce aux caractéristiques qui le distinguent des autres espèces de ce genre. ou alors on peut aussi le nommer selon son habitat, et dans ce cas-là, ceux qui vivent dans les rivières et ceux dans les lacs. C'est d'ailleurs ce qu'on propose à la population. Ou on peut encore les nommer avec le nom de quelqu'un, mais nous, on préfère quelque chose qui permet d'identifier l'espèce du poisson.
We prefer something that you can relate the name of the species to the fish.
Un des propos recueillis et traduits par Lucie Ostorero. Dans l'actualité internationale, le pape François est rentré au Vatican. Le souverain pontife, 88 ans, a quitté l'hôpital où il a passé plus de 5 semaines pour une double pneumonie. Avant de partir, il a remercié depuis un balcon les centaines de fidèles venus le saluer. Dans sa prière dominicale de l'Angélus, il a exigé la fin immédiate des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et la reprise du dialogue pour une libération de tous les otages, ainsi qu'un cessez-le-feu définitif. Et ceci alors que Tzahal a lancé aujourd'hui encore une offensive en territoire palestinien. 673 personnes y sont mortes depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël. Les discussions entre Ukrainiens et Américains sur une éventuelle trêve de la guerre avec la Russie ont débuté il y a quelques minutes à Riyad en Arabie Saoudite. C'est ce qui ressort d'une annonce faite à l'AFP par une source au sein de la délégation ukrainienne, confirmée depuis sur les réseaux sociaux. Ces discussions étaient initialement prévues demain. Et pour finir, retour en terre jurassienne avec des ossements en vadrouille, ceux de Saint-Germain, premier abbé de Moutier-Grandval, qui ont fait l'objet il y a quelques jours à Delémont d'une conférence de Jean-Claude Rebetet, conservateur des archives de l'ancien évêché de Bâle. Une conférence qui s'inscrivait dans le cadre de l'accueil de la Bible de Moutier-Grandval au musée jurassien d'art et d'histoire. Il faut dire que le squelette de Saint-Germain, considéré comme un saint en 675 dès son martyre, soit son assassinat, s'est beaucoup déplacé dans les centaines d'années suivante. On écoute Jean-Claude Rebetet qui avait parlé dans sa conférence d'un squelette baladeur.
On peut dégager cette période de mouvement ou de stabilité chez Germain. Grosso modo, dans la première période qui va de la fin du 7e siècle, date de sa mort, jusqu'au 11e siècle environ, on sait que les moines l'enterrent immédiatement dans la première église du couvent, l'église Saint-Pierre, vers l'autel. Mais après, on ne sait pas très bien ce qui se passe jusqu'au 11e siècle, c'est-à-dire le moment où la collégiale, à l'emplacement qu'on lui connaît, est bâtie à Moutier. À ce moment-là, ouvre la deuxième période, c'est-à-dire que Germain est enterré vers le maître-autel de la collégiale, au site actuel. Et ça, ça dure paisiblement jusqu'à la fin du 15e siècle. Et là, il y a une période extrêmement agitée entre 1477 et 1534. 1477, les chanoines vont ouvrir le tombeau de Germain. Oui, parce que les fidèles sont devenus un peu sceptiques, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de miracles et ils commencent à se poser la question, mais est-ce que les reliques sont bien là? Ils ouvrent le tombeau derrière le maître-autel et, bonheur, on constate que tout est en ordre, le squelette est là. Malheureusement, quelques années plus tard, en 1499, arrive la guerre de Souabe et les Autrichiens, qui sont au bisbille avec les Suisses, tombent à bras raccourcis sur Moutier, qui est combourgeoise avec Berne. Ils vont faire subir les derniers outrages à la collégiale, ils vont y mettre le feu. Ce qui n'est pas beau du tout, mais par bonheur, les tombeaux vont être épargnés d'après les témoignages qu'on en a. Pas pour longtemps, puisqu'en 1530, la réforme menaçant, des chanoines de nuit, clandestinement, ouvrent les tombeaux et transportent le tout à Soleure pour les mettre en sécurité, parce que la semaine d'avant, les reliques de Saint-Imier avaient été brûlées à Saint-Imier. Et ils craignent qu'il ne se passe la même chose à Moutier. Ils avaient bien raison, puisque la réforme va s'établir peu après. Mais en 1534, les chanoines obtiennent l'autorisation pour se réinstaller dans le diocèse à Delémont. Tout se passerait bien s'il n'y arrivait pas la Révolution. Et là, c'est de nouveau la panique, n'est-ce pas? Nos chanoines doivent prendre la fuite et ils emmènent à Courtétel leurs reliques dans la nuit du 13 février 1793, sur un char couvert de paille pour ne pas trop les secouer. Pourquoi Courtétel? C'est dans la vallée de Delémont, mais le village est considéré comme suisse, puisqu'il est dans la prévôté de Moutier-Grandval, prévôté de Moutier-Grandval, elle-même combourgeoise de Berne. Donc, elle reste là pendant quelques temps, mais pas très longtemps, puisque les Français vont envahir le sud de l'évêché, donc y compris la prévôté de Moutier, et puis après la Suisse. À Moutier, les Français manifestent l'intention d'envahir le sud de l'évêché, on se dit qu'il faut vite sauver nos reliques, et on les envoie de nouveau à Soleure le 19 décembre 1797. Mais bon, ensuite, la Suisse elle-même est envahie, donc c'est un refuge de courte durée. Et finalement, le 14 février 1805, le chapitre de Moutier ayant été dissous, on arrive à un accord selon lequel les reliques peuvent réintégrer l'église Saint-Marcel de Delémont, ce qui est le cas donc le 14 février 1805. Ce qui fait que de 1805 à aujourd'hui, nos reliques n'ont en principe plus bougé, sauf une petite exception, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les a mises en sécurité à Saint-Maurice-d'Agoune. Pour l'instant, et jusqu'à plus ample informé, nos reliques ne vont plus bouger, elles vont rester à Saint-Martel, là où elles sont conditionnées, et on leur souhaite un avenir plus calme que leur passé.
Jean-Claude Rebetet, conservateur des archives de l'ancien évêché de Bâle, évoquait une partie des multiples péripéties vécues par le squelette de Saint-Germain au gré des événements historiques. Retrouvez le récit complet sur notre site internet rfj.ch en cours de soirée.
RFJ Sport.
Vous l'avez entendu, en début de journal, les SR Delémont ont remporté une victoire précieuse, Florian Wolfer.
Et oui, la formation jurassienne a remporté un match à 6 points contre Bavois cet après-midi à la Blancherie. Les SRD se sont imposés 3-1. Ils ont notamment pu profiter de l'expulsion d'un joueur vaudois à la demi-heure de jeu pour construire ce succès. Les jurassiens, 14e du classement, possèdent désormais 5 longueurs d'avance sur Bavois, premier relégable. Un début de match raté pour le FC. Courte est-elle, les footballeurs jurassiens de première ligue se sont inclinés 2-0 contre Pristina Berne cet après-midi au centre sportif. La messe était déjà dite au quart d'heure de jeu. Le FCC recule à la 10e place du classement. Après cette défaite, il possède 7 longueurs d'avance sur la barre. Alvin Chantzès sur le flanc pendant de longs mois. Le milieu de terrain a été touché vendredi lors du dernier instant de la rencontre entre la Suisse et l'Irlande du Nord. Le joueur de 22 ans disputait ses premières minutes sous le maillot de la Nati. Le Lausanne Sport informe aujourd'hui que son joueur souffre d'une lésion complète du ligament croisé antérieur du genou. La Juventus de Turin se sépare de son entraîneur. Le club italien a annoncé aujourd'hui la fin de sa collaboration avec Thiago Motta. Le technicien était en poste depuis juillet dernier. Il sera remplacé par le croate Igor Tudor. La vieille dame enchaîne les désillusions cette saison. Elle a réalisé l'une des années les plus décevantes de son histoire récente. Les finales de la Coupe du Monde de ski alpin de Sun Valley sont finalement lancées après les annulations des descentes hier. Les super-G féminins et masculins se disputent aujourd'hui. La course des dames a démarré il y a une dizaine de minutes. C'est l'Autrichienne Cornelia Uther qui mène le bal devant l'Allemande Emma Eicher et l'Italienne Laura Pirovano. L'enjeu principal de cette course est le petit globe de la discipline qui se jouera entre la Tessinoise Lara Gutberami et l'Italienne Federica Brignone. Les deux skieuses s'élanceront dans quelques minutes. La course masculine débutera à 19h30 heure suisse aux États-Unis. Ditaji Kambudji a remporté sa première médaille dans un championnat du monde cet après-midi. La Bernoise a accueilli l'argent sur le 60 mètres haies aux mondiaux en salle de Nanjing en Chine. Elle a manqué la médaille d'or pour 1/100 derrière l'athlète des Bahamas, Devin Charlton. Audrey Vero n'a malheureusement pas connu la même réussite. La fribourgeoise a échoué au pied du podium du 800 mètres pour 1/100 seulement. Elle a été passée sur la ligne par la portugaise Patricia Silva. Simone Hammer n'a en revanche pas brillé. La Penzeloa a dû se contenter de la 9e place du concours de la longueur. Le HC Ajoie veut aller bousculer Lugano au Tessin. Les hockeyeurs jurassiens disputent le 5e acte des play-outs de National League ce soir à 20h. Les 4 premiers duels se sont joués à peu de choses. C'est 2 partout dans cette série entre les deux formations. Le vainqueur du soir s'offrira 2 pucks de maintien. La rencontre entre le HCA et Lugano est à vivre en direct sur RFJ dès 19h45 avec le commentaire de Michel Léoni. Et enfin, le 4e acte de la finale de Swiss League se dispute en ce moment même. Bâle mène 1-0 sur la glace de Viège. Les Rhénans, premiers du classement à l'issue de la saison régulière, sont menés 2-1 dans cette série au meilleur des 7 matchs.